Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Évidemment, vous pouvez podcaster cette partie, la partie précédente ou toutes les parties sur le site europe1.fr. Nous serons avec l'écrivain Laurent Sexy qui vient de signer la préface d'un livre d'écrit inédit politique de Stefan Zweig, Mythe de la littérature mondiale. Hélène Manarino, va nous dresser son portrait inattendu, évidemment, pas de Zweig, mais de Laurent Sexic. Et puis dans les indispensables de la musique, avec tout ce qui nous attend pour 2020, il y a du très lourd, Céline Dion, McCartney ou Elton John, puis le meilleur des jeux vidéo à venir pour cette nouvelle année. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture qui débute par un classement, les titres les plus écoutés sur Deezer au Nouvel An en France.
Une petite info festive pour démarrer ce journal. Ah. Alors, on aime bien. Céline, Philippe, qu'avez-vous écouté au Nouvel An?
Au Nouvel An?
À minuit, tu
dis? Ouais, mon estomac. Je me suis dit, il fallait que j'arrête.
Alors, très bien, bonne musique. Très, bien, très sympa, vous êtes des super camarades pour ce jeu. Alors, que s'est-il passé entre 23h55 et minuit 15, la nuit du 31 janvier, les Français ont, entre autres, écouté ça. Les démons de minuit, ah oui. Évidemment, tube des années 80. Autre chanson, celle qui a marqué l'année 2019. Bla, 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sale. Bla, 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sale. Pouki, Diana Kamoura, on peut se dire bonne année sur Pouki, c'est pas mal.
Oui. Oh tiens, j'ai une petite info sur Diana Kamoura, ça vient de sortir. Elle sera dans la programmation du très 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 prestigieux festival Coachella.
Ah, bah, très bien, génial. En Californie.
C'est juste énorme, ouais. Bah, oui, c'est énorme. Française, ça fait très très plaisir.
Évidemment. Alors, je vous propose maintenant de découvrir le podium, les trois chansons qui, que vous avez écoutées au Nouvel An entre 23h55 et minuit 15. On démarre par la troisième place, la deuxième, puis la première. Admirez. Voilà, donc à la troisième place, Dance Monkey de Tones and I, puis évidemment les Black Eyed Peas, I Got a Feeling, et ensuite le rappeur Gradure et son tube Ne Reviens Pas, avec ce refrain Prends tes affaires, rentre chez toi, une belle façon de dire au revoir à 2019.
Et puis on reste dans la musique avec une nouveauté qui est arrivée ce matin.
À 6h plus précisément, et attention, les réactions, le retour de Justin Bieber. Évidemment, je pense que ça suscite ce genre de réaction. Et son nouveau single intitulé Yumi. Premier extrait d'un album qui paraîtra courant 2020. Il y aura également une tournée nord-américaine à partir de mai. Et sachez que le clip de Yumi sort demain.
Ça, c'était les filles du standard en bas.
C'est Céline qui crie aussi.
Tout autre sujet désormais, on va partir du côté de l'univers Marvel.
Et oui, du côté des super-héros, Iron Man, Captain America, les Avengers, Gardiens de la Galaxie, Spider-Man. Eh bien, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a affirmé que la franchise, voilà, il allait avoir un personnage transgenre, il serait dans le film qu'ils sont en train de tourner. Ils avaient publié d'ailleurs une annonce cet été où ils recherchaient une femme transgenre entre 20 et 30 ans. Alors, pas de date de sortie pour le moment. On sait que le film concerné s'intitule The Eternals et qu'il rassemble Angelina Jolie et Richard Madden, entre autres. Alors, il y aura un personnage gay, marié et père de famille. Marvel, qui a souvent été critiqué pour sa manière de traiter le genre et la sexualité. Les choses sont donc en train de changer. Et je rappelle qu'ils ont aussi attendu 10 ans et 20 films pour mettre en premier plan une super-héroïne. C'est arrivé en 2019, c'est Carol Danvers, notre Captain Marvel.
Voilà, il y a parfois des super-héroïnes à l'écran, mais pas forcément dans la vie. Je dis ça parce qu'on vient de l'apprendre. Une actrice de Captain America a été placée en détention provisoire aux États-Unis après avoir poignardé la mort de sa mère. Elle s'appelle Molly Fitzgerald, elle a 38 ans. Elle a fait une courte apparition dans Captain America First Avengers, qui était sorti en 2011, dans lequel elle jouait une danseuse, mais beaucoup plus joyeux. On va terminer en musique, Hélène, avec le retour des Strokes.
Oui, ce groupe de rock porté par Julian Casablancas a annoncé la sortie d'un nouvel album. Il n'y en avait pas eu depuis 2013. Une annonce faite tout simplement sur scène au Barclays Center à Brooklyn. Alors, ils l'ont fait au micro juste avant d'interpréter une toute nouvelle chanson, sans préciser le titre, mais qui devrait évidemment figurer sur ce nouvel album. C'est une captation de fans au téléphone portable, hein, évidemment. Alors, Julian Casablancas a aussi déclaré « Nous avons été décongelés et nous sommes de retour ».
Ouais, dis donc, ils ont été décongelés, mais ils ont pris des calmants entre-temps.
Mais oui, alors on sait que l'ambiance entre les membres du groupe était un peu compliquée. En tout cas, il y a une bonne entente pour 2020 et un nouvel album. Les fans vont donc être ravis.
Merci beaucoup Hélène, vous revenez tout à l'heure pour votre portrait inattendu de notre invité.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et ce matin, dans Culture Média, on est ravis d'accueillir Laurent Sexic.
Bonjour Laurent Sexic.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes écrivain, auteur notamment des derniers jours de Stefan Zweig, d'une trilogie, je l'avais dit ici, qui s'est vendue à 400 000 exemplaires en France. Et vous signez la préface de Stefan Zweig, c'est sous-titré « Pas de défaite pour l'esprit libre ». Ce sont ses écrits politiques de 1911 à 1942, c'est publié chez Albin Michel. Mais avant qu'on parle de ses écrits et de leur importance, un mot d'abord pour situer qui ne connaîtrait pas Stefan Zweig. En quoi est-il un écrivain important, ou mieux, pourquoi faut-il le lire ?
Il faut alors une minute, il faudrait 24 heures pour décrire l'œuvre de Stefan Zweig et sa vie d'ailleurs, qui est un roman comme son œuvre. Pourquoi faut-il le lire ? Le lire parce que c'est l'écrivain des passions, c'est l'écrivain des passions amoureuses. C'est l'écrivain qui va immédiatement entrer dans la peau d'un personnage et vous le faire vivre et vous faire battre au rythme de ses passions. C'est un écrivain dont les livres sont des petits bijoux. Il y a plusieurs Stefan Zweig, il y a Le Novelliste avec 24 heures de la vie d'une femme, Lettre d'une inconnue que moi je recommande, qui est son chef-d'œuvre.
Le joueur d'échecs.
Le joueur d'échecs.
Moi j'avais commencé par ça.
Voilà. Alors souvent les hommes commencent par Le joueur d'échecs.
Et les femmes par 24 heures de la vie d'une femme.
Non, Lettre d'une inconnue. Ouais. Et puis ça, c'est Le Novelliste qui dont les nouvelles sont des petits mécanismes d'horlogerie. Je l'ai dit, c'est l'écrivain des passions amoureuses. C'est un écrivain qui va rentrer dans la peau des personnages et nous faire vivre au rythme de ces personnages. Mais c'est aussi un biographe. C'est Marie-Antoinette, Marie Stuart, Fouché. Là, alors qu'on était dans l'intime avec Le Novelliste, on est dans le souffle de la grande histoire, on est dans les champs de bataille, on est avec les généraux, avec les capitaines, avec les bataillons d'infanterie. Et il y a le dernier Zweig qui est l'autobiographe, qui pour moi est le plus grand, et qui a la jonction entre l'intime Zweig et l'historien Zweig des biographies. C'est l'écrivain du monde d'hier. C'est un livre monumental. C'est l'autobiographie d'un homme et c'est l'autobiographie d'un siècle. C'est comment on devient écrivain et c'est comment on devient un homme. Et c'est comment l'Europe s'anéantit d'elle-même. C'est le suicide de l'Europe, c'est la splendeur de l'Europe et c'est la splendeur de Stefan Zweig, comment il est devenu l'écrivain le plus lu au monde dans les années 30. Et comment il a été brûlé sur toutes les places d'Allemagne dès 1933. Et c'est aussi sa fin tragique au bout du monde, à Pétropolis en 1942.
Parce que vous le dites, le suicide de l'Europe, mais le suicide de Stefan Zweig, c'est ça sa fin tragique.
Sa fin tragique, c'est, si vous voulez, il a à la fois exprimé et incarné l'Europe. Il a exprimé et incarné un rêve j'écoutais Alex Taylor tout à l'heure, lorsqu'il parlait de l'Europe, on avait l'impression d'entendre des propos de Stefan Zweig aussi. Alors ce n'est pas un idéologue, mais c'est un homme qui part de l'intime pour raconter une histoire.
Alors j'en viens à Stefan Zweig, le sous-titre c'est « Pas de défaite pour l'esprit libre », ce sont ses écrits politiques 1911-1942 pour lesquels les éditions Albin Michel sont venues vous chercher, vous Laurent Sexic pour la préface, je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez dit oui, mais pourquoi, en quoi ces écrits politiques sont intéressants, d'abord de quoi s'agit-il, ce sont des inédits dans quelle mesure ?
Ce sont des inédits. Ils ont été inédits en France, ils étaient inédits en Allemagne aussi. Ce sont des lettres que l'on a retrouvées dans les archives et qui n'avaient jamais été publiées et qui racontent à
la fois. Pas même dans des journaux.
Dans certains journaux de l'époque, absolument. Ouais. Pour certains, ce sont des lettres qu'il avait adressées, ce sont des manifestes. Et si vous voulez, ça nous permet de découvrir un autre Stefan Zweig.
C'est-à-dire ?
On a l'habitude, c'est devenu un cliché maintenant, de dire que cet homme s'est totalement refermé sur lui-même à partir de 1933, qu'il a fui, qu'il s'est comporté presque comme un lâche. C'est-à-dire qu'il
n'est pas intervenu. Alors, je ne sais pas s'il était lâche, mais en tout cas, il a fui. Il a fui l'Europe. Alors, il est allé en Angleterre, puis aux États-Unis, puis au Brésil. Donc déjà, il a fui.
Alors, il n'a pas fui, il est parti en exil. Forcé qu'il était, du fait qu'il était juif, c'était un écrivain autrichien, il a compris avant tout le monde la terrible destinée qui attendait les siens, et il est parti avant tout le monde parce qu'il avait cette connaissance, cette science de l'histoire qu'il développe dans ses biographies. Donc si vous voulez, il n'a pas fui, il s'est exilé, sa vie de 1933 à 1942 a été une errance, et c'est ce que racontent ses lettres.
Alors je vais faire un excellent résumé de l'image de Zweig, parce que je vous l'ai piqué, c'est la vôtre, vous écrivez dans la préface. Il est de coutume de réduire la pensée de Zweig à un ersatz de pacifisme teinté d'humanisme bourgeois érigeant le non-engagement en système idéologique, donc c'est pas vrai.
Non, c'est faux. Et je dois dire que même moi, qui ai lu beaucoup de choses sur Zweig, j'ai été surpris par ses lettres, j'ai été surpris par ses manifestes qui montrent un Zweig inédit, comme le sont ses écrits, c'est-à-dire un homme qui s'est engagé de 1933 à 1942 politiquement et qui... Allez-y, oui.
Oui, non, même vous, je veux dire ce qui m'a vraiment frappé, parce que j'ai lu votre roman Les derniers jours de Stefan Zweig qui était sorti en 2010, vous racontez ses derniers mois de vie et on lui reproche à l'époque, il se reproche de ne pas prendre de position politique contre le Troisième Reich, il se reproche à lui-même sa lâcheté, vous écrivez page 56, Zweig n'avait rien osé faire, pas la moindre pétition, pas le plus petit article, il était tétanisé par le retentissement de ses propos, donc la preuve que non. Donc en 2010, alors, il vous manquait des infos.
Absolument, et c'est ça qui est extraordinaire avec les vies de ces hommes. Moi j'écris sur Einstein, sur Gary, actuellement sur Kafka. Leurs vies sont tellement exceptionnelles, sont tellement riches, embrassent tellement l'histoire, que c'est une découverte permanente. J'avais découvert l'histoire du fils d'Einstein qui était schizophrène, qui était fou, qui était aliéné, et là, en effet... C'est vrai qu'il n'a pas, je ne reviens pas entièrement sur ce que j'avais écrit, c'est-à-dire que politiquement, il n'a pas pétitionné, parce qu'il avait compris, et on le saisit à la lecture de ses inédits, l'inefficacité, la vacuité de tout engagement. Il avait trouvé évidemment plus fort que lui, lui qui était l'homme des livres, avec l'homme qui a brûlé les livres, avec l'Allemagne qui à l'époque a brûlé les livres, il avait trouvé plus fort que lui. Donc il a renoncé. En 1940, en 1941, il a renoncé définitivement en 1942, mais de 1933 à 1940, c'est ce que j'ai pu découvrir, grâce au cadeau que m'a fait Albin Michel en me demandant de préfacer cet ouvrage, c'est que cet homme, de 1933 à 1940, avait lutté avec ses moyens.
Je vais reprendre vos propres termes, Laurent Seixic, découverte permanente. C'est exactement ce qui nous attend dans quelques instants avec Hélène Manarino.
Oui, c'est Laurent Seixic qui est notre invité. On connaît l'écrivain, on va découvrir l'homme dans sa vie de tous les jours. Grâce aux indiscrétions qu'Hélène Manarino a découvert en enquêtant, votre portrait inattendu, Laurent Seixic, c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est alors Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Nous parlions de découverte permanente. Laurent Seixic, je vous présente Hélène Manarino. Hélène, je vous présente Laurent Seixic.
Bonjour Laurent Seixic.
Bonjour Hélène Manarino. Donc je dois voir ma vie défiler sous mes yeux, c'est ça?
Normalement, ouais, j'espère. Voilà. Si c'est pas le cas, c'est que j'ai pas fait mon travail.
Non, j'aime pas ça parce que dans le film de Lelouch, à la fin, il meurt. Donc non.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors rassurez-vous tout de suite, nous n'allons pas partir trop loin, enfin dans le temps peut-être uniquement. Je le précise parce que vous n'aimez pas du tout voyager trop loin, seulement dans votre tête, surtout quand vous vous plongez dans votre émission de télé préférée, La Maison France 5, en regardant travailler les architectes. Mais hors de question pour vous de faire de longs voyages, même une heure de voiture. Ce n'est pas possible. Alors jamais loin signifie en général être à l'heure. Et pourtant, comme l'était votre papa, vous êtes toujours en retard, mais un vrai retard, d'une heure parfois. Vous avez rendez-vous à 13h, vous arrivez à 14h.
Ouais. Alors, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux.
Commençons le voyage de votre vie et partons tout de suite vers votre destination préférée.
Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions.
Mais c'est Nice.
C'est quoi? C'est quoi cette
j'ose pas
qualifier? Comment?
C'est pas la chanson, par
oui, c'était non, mieux, non?
C'est la chanson préférée de Nicolas, le réalisateur. Voilà, ouais. Je balance. Alors, Nice, d'où vous êtes originaire?
Ah, c'est bien son genre de musique, en plus.
Vous ne pouvez pas vivre sans. La première chose que vous faites en arrivant là-bas, vous rendre sur un restaurant de plage, seul face à la mer, en mangeant votre dorade grillée. Et vous ne vous déplacez jamais, mais absolument jamais, même pour une balade de 10 minutes, sans votre ordinateur et 5 livres.
Oui, toujours. J'ai une bibliothèque toujours avec moi.
Mais là, voilà. Elle est là,
dans
c'est
vrai. Oui, toujours. Dans le,
au cas où il se passe quoi?
Au cas où je... Ça, c'est pas au cas où il se passe quoi, c'est que dans les livres, en effet, moi je voyage dans les livres, et c'est un bonheur sans nom.
J'ai compris, mais quand vous allez à Franprix, c'est peut-être pas la peine d'amener 4 bouquins et une Pléiade.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, quand vous écrivez, vous ouvrez votre ordinateur et vous disposez autour de vous ces livres. Il y a toujours un Flaubert et un Proust. Ce sont eux d'ailleurs qui vous ont donné envie d'écrire, eux qui vous ont invité au voyage de la littérature. Alors aujourd'hui, vous aimez aussi vous évader avec votre piano. Vous avez une particularité, vous entendez une chanson et à l'oreille, vous la refaites immédiatement, comme Adele ou Ed Sheeran. Mais il y a un titre qui vous transporte avec votre instrument. And you can tell everybody, this is the song. Évidemment.
C'est encore l'histoire ?
Non, Elton John, Your Song, évidemment, qui est un peu la vôtre aussi aujourd'hui finalement. Et dans votre playlist de non-voyages physiques, on peut ajouter ça. Here's to the ones that we got. Les Maroon 5, que vous aimez beaucoup.
Oui, c'est vrai. Ça fait pas peine de partager avec ses fils, en fait.
Exactement. Alors, Laurent Sexic, vous avez aussi besoin d'être sûr de vous. Lorsque vous arrivez au restaurant ou à l'hôtel, vous avez besoin de regarder toutes les places ou toutes les chambres pour choisir ce qu'il vous faut exactement.
Oh, le chieur, pardon. C'est les hôteliers qui nous écoutent. Ils doivent se dire, pourvu qu'ils ne viennent pas chez moi.
Si vous avez une réservation au nom de Sexic, faites attention. Vous avez raison.
Ça s'appelle la névrose. En fait.
Ouais.
Ça aide beaucoup. Alors, ça aide beaucoup pour écrire, en revanche.
Il
si
faut dire.
Alors, pas de mauvaises ondes, surtout pour un hypochondriaque comme
oui,
vous.
Fête,
vous détenez le nombre record d'IRM, apparemment.
Alors,
voyager, pas trop, mais faire voyager les autres, oui, notamment vos enfants, grâce aux différents personnages que vous avez créés lorsqu'ils étaient petits. Vous racontiez les histoires de Laloulala. Alors, il avait un bras très long et un autre tout petit. Et il y avait aussi Pic-Époc, des enfants que vous emmeniez au bord de la Citroën Saxo, sauf que vous leur faisiez croire que c'était une Porsche. Donc ils ont toujours pensé qu'ils se baladaient
en
Porsche.
C'est génial, c'est pas vrai. Mais quand même, au bout d'un moment, vers 15-16 ans, ils ont su lire.
Maintenant, ils l'ont compris.
Mais
jusqu'à
blague
à part. De 13-14 ans. Non, peut-être 12-13 ans, oui.
Voilà, avec une particularité dans cette voiture, un bouton que vous nommiez le déclencheur. Et là, pareil, personne n'a jamais su ce que cela déclenchait. On ne sait toujours pas. Ça a déclenché quelque chose. Alors vous êtes capable aussi de voyager pour les autres, enfin surtout pour impressionner celle qui deviendra votre épouse que vous veniez tout juste de rencontrer. Vous êtes sur la plage à Nice et là, une voiture décolle du ponton et tombe dans l'eau. Mais heureusement, Laurent Sexic est là.
Ça, c'est la musique d'Alerte à Miami.
Exactement, puisque Café Laurent. Laurent, vous avez nagé pour sauver ce couple, pour sortir cette vieille dame de la voiture et vous les avez sauvés.
Oui, en médecine, j'ai peu sauvé de gens, parce que j'étais radiologue et donc je fais des diagnostics. Mais là, on peut dire que Madame Krause, et c'est une histoire incroyable, c'est une dame qui. Ils avaient coulé dans la baie de Villefranche. Et en effet, on est deux à avoir plongé. Et c'est vrai que c'est un souvenir qui je pense, puisque c'était la spectatrice et la première spectatrice qui a peut-être impressionné mon épouse et nous venions nous connaître.
Alors, des idées, vous n'en avez jamais manqué, surtout avec vos cousins, puisque nous allons partir dans la partie enfance, surtout tous ces cousins qui, quand ils partaient au match Nice-Marseille, alors vous n'aimez pas le foot, hein, c'est pas votre truc. Donc que faisiez-vous ? Vous lanciez des paris, surtout aux plus jeunes de la bande, en disant, tu te mets dans la tribune de Nice et tu cries, allez l'OM, récompense à la clé. Et bien évidemment, ils le faisaient. Bravo Laurent. Ce n'est pas tout, vous êtes aussi vous êtes parti acheter des bonbons pour en manger juste avant le repas, sauf que c'était complètement interdit par votre grand-père. Vous êtes arrivé la bouche pleine de bonbons au repas de famille. C'était à l'occasion d'une fête religieuse et c'était complètement interdit. Mais bon, la tête dans les nuages, vous l'avez fait quand même. Alors évidemment, vous vous êtes fait disputer, sauf que vous avez assuré que ce n'était pas forcément vous le responsable, mais encore une fois, le plus petit des cousins. Bref, alors, voyage dans le temps, dans les souvenirs des cousins avec qui vous aimiez écouter sur tout ça. Super Tramp. Alors ils se sont bien vengés de toutes vos blagues, puisque lors de vos vacances en Corse, ils ont piqué votre maillot de bain.
On peut oublier ce souvenir.
Lorsque vous étiez
non, au contraire, on va s'étendre.
Et vous avez dû sortir donc tout nu devant tout le monde, voilà. Alors, Laurent Sexic, un endroit aussi que vous aimiez beaucoup, peu importe, hein, même si c'était loin, c'était à la bibliothèque du Bouchage à Nice. Particularité, que des jolies filles. Vous étiez interne en médecine. Cette bibliothèque, donc, n'était pas pour vous, parce que ce n'était pas la bibliothèque de la fac, mais vous y alliez quand même, ce qui faisait beaucoup rire vos amis, qui n'hésitaient pas à vous dire, mais Laurent, qu'est-ce que tu fais là ?
Ah mais oui,
dis donc, c'est
qu'est-ce
bizarre.
Que vous foutiez là, ouais.
Alors, maintenant, c'est la bibliothèque Romain Gary. C'est vrai que c'est la bibliothèque aussi où Romain Gary allait.
D'accord.
Et il y avait l'âme de Gary. Il y avait de jolies âmes aussi.
Hélène.
Alors Laurent Sexic, ce que l'on peut dire surtout, c'est que vous avez toujours 40 idées à la seconde. Finalement, vous souhaitez en permanence nous inviter au voyage sans aimer particulièrement voyager. C'est finalement la définition d'un passionné.
Merci beaucoup Hélène, vous êtes reconnue.
Ah oui, complètement. Hein, oui,
votre enfance a défilé.
Oui, c'est ça. Hein,
ça vous a fait des petites sueurs froides, Laurent Sexic. Oui, hein, vous restez avec nous, on va vous passer un Kleenex. Si vous avez l'image sur Europe1.fr, vous voyez que Laurent Sexic est un peu ému. Toujours, c'est mon goût pour la médecine.
C'est Laurent Sexic qui est notre invité. Dans un instant, on découvrira avec lui nos indispensables du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dans un instant, Philippe, on découvrira nos indispensables du jour. Ce sera avec Angèle Châtelier et Clément Le Saffre. Mais avant, on continue à parler de l'actualité de notre invité, Laurent Sexic, écrivain. Il a préfacé le livre Stéphane Zweig, Pas de défaite pour l'esprit, livre écrit politique inédit entre 1911 et 1942 aux éditions Albin Michel en librairie le 9 janvier.
Je l'ai dit, Laurent Sexic, à un moment de sa vie, Zweig était l'auteur le plus traduit dans le monde, le plus lu dans le monde. Et toutefois, dites-vous, il suscitait le mépris de l'intelligence de l'époque. Pour quelle raison on a peine à le croire? Alors que maintenant, s'il y a des gens qui se gobergent sur Stephen Zweig, c'est bien l'intelligentsia.
Absolument. On mettait face à lui Thomas Mann. Il y avait l'écrivain allemand avec La Montagne Magique, qui est une immense œuvre, les Buddenbrock. Et Zweig, c'est l'auteur de nouvelles. Et donc, il y avait cette forme de mépris pour quelqu'un qui, à la fois, écrivait merveilleusement avec une poésie et un style extrêmement ciselé et qui n'était pas à la mode, en réalité, tout en étant extrêmement vendu. C'est-à-dire qu'il n'était pas la mode universitaire.
J'ai compris. C'est comme maintenant Paulo Coelho. C'est comme tout ce qui marche. En général, quand des livres se vendent, voilà. Les gens du milieu littéraire germano-pratin se bouchent le nez en croisant le livre.
Alors, c'est encore autre chose, parce que malgré tout, il y avait alors, il y a des écrivains de qualité qui vendent et qui sont méprisés, mais si vous voulez, il avait intériorisé en réalité une sorte de mépris qui existait, et comme il agissait beaucoup sur la culpabilité, qui est d'ailleurs le moteur de ses livres, il parle toujours d'aveu, il parle de passion coupable. Il avait également intériorisé cette forme de mépris et il en souffrait énormément.
Jusqu'à un certain point, parce qu'il ne suscitait pas non plus le mépris de tout le monde, Albert Einstein avait demandé à le rencontrer.
Non seulement Albert Einstein avait demandé à le rencontrer, mais ils ont déjeuné ensemble à Berlin au début des années 30. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, et ça en dit beaucoup sur un écrivain, sans le rendre forcément sympathique, c'est que lorsqu'il rentre de Berlin et qu'il va retrouver son épouse,
parce qu'il habite à Vienne, faut le dire,
Zweig, voilà, près de Vienne, il va dire à sa femme, Frédéric, sa première femme, j'ai rencontré Einstein, tu sais, c'est extraordinaire, il a lu tous mes livres. Et ce qui est très surprenant également, c'est qu'il va dédier à Albert Einstein le livre qu'il a écrit sur Freud. Il a dédicacé à Albert Einstein et ce qu'il y a de très troublant, c'est que Einstein avait donc son fils schizophrène et que Einstein ne pouvait pas aller voir Freud et ne pouvait pas était extrêmement gêné, était extrêmement intimidé par le fait de parler de son fils schizophrène à Freud. Alors que vous pouvez acheter dans toutes les librairies un livre dédié. Écrit par Stefan Zweig, dédié à Albert Einstein.
J'ai pas compris ce que vous vouliez dire sur Zweig et sur les propos qui tient à sa femme, parce que ça parle de lui. C'est quand même très très étonnant de savoir que le plus grand génie mathématique physique du monde a lu tous vos livres. C'est absolument normal qu'il lui fasse cette confidence en retour.
Oui, mais quand vous rencontrez Einstein, vous êtes surpris par autre chose que ce miroir qu'il vous renvoie.
Oui, c'était peut-être la première phrase et la seconde voilà, aurait dit, oui, tu sais, il est mal coiffé et vraiment la relativité. Je lui ai dit que c'était mal, c'était mal pensé, non. Et c'est Zweig qui a prononcé l'oraison funèbre de Freud à Londres.
Absolument, il avait commencé son exil. Il était devenu, à la suite de la déclaration de guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre, un alien ennemi en Angleterre. C'est-à-dire que c'est un étranger indésirable parce qu'il était allemand.
Ouais.
Indésirable en Autriche parce que juif. Indésirable à Londres parce que l'Angleterre était en guerre avec l'Allemagne. Et il a dû demander l'autorisation à l'administration anglaise pour se rendre à Londres parce qu'il habitait à Bath et pour tenir en effet l'homélie de Freud qui était également en exil à Londres.
Donc il n'était pas non plus totalement rejeté par l'intelligentsia.
Non, mais vous savez, Freud était rejeté également. Freud vivait dans le mépris de ses contemporains. Freud n'a pas eu le Nobel pour cela. Et donc, c'était deux êtres qui avaient bien des points communs. Et Freud reconnaissait un immense talent à Zweig et le comparait à Dostoïevski.
Vous êtes un adorateur de Zweig, j'imagine que ça s'entend, Laurent Sexic. Mais parfois, vous lui reprochez, vous le dites comme ça, c'est pour ça que je veux en parler avec vous, cet agaçant lyrisme.
Oui, à la fois c'est un style extrêmement ciselé, c'est une poésie extrêmement enivrante, mais il se laisse quelquefois aller à une sorte de lyrisme exacerbé qui peut agacer, mais qui est très envoûtante aussi. Il a une prose qui est tout à fait remarquable.
Mais quand on dit agaçant, ça veut dire que c'est l'auteur qui trouve ça agaçant. Vous le trouvez agaçant, ce lyrisme ?
Je peux le trouver agaçant et en même temps je suis fasciné. C'est extrêmement poétique. Zweig avait traduit Baudelaire, avait traduit Rimbaud, avait traduit Verhaeren. Il est imprégné d'ailleurs de cette poésie française. C'est pourquoi il y a une vraie passion française pour Zweig. Parfois c'est un peu agaçant, surtout dans les biographies. Moi je préfère de loin les nouvelles et le monde d'hier aux biographies où il cisèle beaucoup moins ses livres et où il les portait un peu par le souffle historique. Il se laisse un peu aller à diluer son style.
Il y a quelques années, Laurent Sexic, vous avez monté une pièce de théâtre, au théâtre des Mathurins, adaptation scénique du monde d'hier. Le fameux ouvrage de Zweig dont vous parliez, son chef-d'œuvre, dites-vous, son autobiographie, c'est simplement un monologue avec un acteur quasiment inconnu qui était là sur scène. Chose extraordinaire, la pièce est restée à l'affiche 2 ans. Je veux dire ce que ça veut dire quand une pièce est à l'affiche 2 ans, ça veut dire que c'est plein pendant 2 ans. Parce que sinon, une pièce tient 2 mois, 3 mois et ensuite on la remplace par une nouvelle. Comment expliquez-vous un tel succès de nos jours ? Pour un auteur qui écrivait il y a un siècle.
C'est un livre qui est fascinant, c'est une voix qui est fascinante. Moi, je l'ai découverte à 20 ans. Une jeune femme, mon amie de l'époque, Magali Weg, m'a dit « Tu veux devenir écrivain ? Lis ce livre. » Ma vie a été bouleversée par la lecture de ce livre. Mon style a été bouleversé. Je suis devenu un écrivain en réalité en découvrant ce livre. C'est une voix qu'il faut entendre aujourd'hui. C'est une voix qui nous parle, c'est une voix humaniste, c'est une voix intimiste et qui raconte la destruction du monde lorsque le monde est emporté par des passions funestes.
Il aimait la musique, Zweig, ou pas ?
Il adorait la musique, il a vécu à Vienne, ouais. il avait posé
non,
la main...
On peut vivre à Vienne et pas aimer le chocolat chaud.
Si
hein.
Vous voulez, oui, mais il a vécu dans cette Vienne qui a créé Klimt, qui a créé Mahler. Ouais. Lorsqu'il était jeune, posé la main sur Gustav Mahler. Il a écrit sur Mahler, d'ailleurs. Il adorait la musique.
C'est pour faire un lien, parce qu'on a eu tout le temps de faire toutes les rétrospectives de tout ce qui s'est passé en 2019. Et maintenant, je tourne vers vous, Angèle Châtelier. Et si on parlait de ce qui nous attend en musique en 2020, Angèle ?
Oui, tiens, bonne idée, Philippe, parce que cette année risque d'être très chargée en événements musicaux, à commencer par la venue de la légendaire Céline Dion. Date à la U Arena à partir du 26 juin, la plus grande salle d'Europe, sans compter sa prestation au Festival des Vieilles Charrues à Carré, des places qui se sont écoulées en 9 minutes. Mais ce n'est pas la seule star emblématique qui va venir en France, il y aura aussi une certaine Madonna. Quatorze dates sont prévues au Grand Rex à partir de février. Enfin, si elle se sent mieux, la chanteuse a été contrainte d'annuler des dates de sa tournée il y a quelques semaines. Elle aurait des blessures, de fortes douleurs, sans en dire plus.
Et on attend forcément des artistes pendant les festivals de l'été, à part Céline Dion.
Oui, notamment Alain Souchon. Il n'était pas revenu en solo depuis 11 ans pour un album. Alors autant célébrer comme il se doit ce disque, Am 50s, au Printemps de Bourges par exemple, ou aux Francofolies de La Rochelle. I'm 50s. Lana Del Rey fera aussi une date exceptionnelle à l'Accor Hotel Arena et au festival parisien We Love Green en juin. Son dernier album Norman Fucking Rockwell fait partie des meilleurs albums de l'année qui vient de s'écouler. Et autre grosse star qui viendra en France, mais pour la dernière fois, c'est Elton John. Sir Elton John, comme on l'appelle, sera pour 3 dates exceptionnelles à Paris en octobre prochain. Et enfin, côté album, on attend ceux de Childish Gambino, c'est celui qui a fait ça. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. La star de la pop Rihanna devrait aussi revenir avec un nouveau disque. Bref, vous l'aurez compris, c'est une année riche en musique et riche en concerts, car il y en a un que je n'ai pas cité, c'est le géant Paul McCartney. Il sera le 23 mai au stade Pierre Moreau à près de Lille, à la Défense Arena le 26, à Bordeaux le 31 et enfin le 7 juin à Lyon.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Notre invité, Laurent Sexy, qu'on va revenir dans un instant, Philippe, à son actualité. Avant, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour. On parle des jeux vidéo de 2020 avec Clément Le Saffre.
Oui, la suite de nos indispensables. Clément, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous présentez en avant-première les jeux vidéo phares de cette année à venir.
Exactement, et 2020, je peux vous le dire, ça annonce comme un très bon cru, simplement parce qu'il y aura évidemment les franchises, vous savez, qui reviennent chaque année. Il y a FIFA, il y a Call of Duty, il y a les Mario, Assassin's Creed, etc. Au-delà de ces jeux-là, il y aura beaucoup de jeux vidéo très originaux et donc très alléchants. Et pour commencer, je vais vous emmener au Japon au XIIIe siècle pour Ghost of Tsushima, le fantôme de Tsushima. Dans ce jeu, qui sortira cet été, on incarnera un ronin, un samouraï sans maître. L'île du Japon est envahie par les Mongols. Alors, pour défendre l'indépendance de son territoire, ce samouraï, il va devoir maîtriser la voix du fantôme. C'est un style de combat basé sur le silence, l'infiltration. Voilà la bande-annonce, hein, vous l'entendez, laisse entrevoir.
Non, c'est impressionnant. Hein.
Ah, quelque chose de très réaliste, on est dans l'ambiance, la musique, le vent dans les feuilles, le samouraï qui apparaît et disparaît dans un nuage de fumée. Voilà, on va être dans un monde ouvert, ce sera un jeu où on pourra se déplacer partout sur l'île. Ça s'annonce magnifique, très stylisé et surtout la promesse d'une aventure épique, sabre à la main. Voilà, et puis du XIIIe siècle, on va faire un saut dans le temps jusqu'en 2077 cette fois. C'est un futur plus ou moins proche dans lequel se déroule le jeu Cyberpunk 2077. C'est un des jeux les plus attendus depuis qu'il a été annoncé en 2017. Il faut savoir qu'à chaque grand salon de jeux vidéo, le jeu revient et on ne parle que de ce jeu-là. Alors il reste encore malgré tout assez mystérieux. Pourtant, il doit sortir très prochainement, dans l'année, au printemps. On sait quand même que ce sera un jeu d'action qui se jouera à la première personne. Donc, on ne verra pas le personnage, on verra à travers ses yeux. Ça se passe dans un monde ouvert également, situé dans Night City, une ville américaine futuriste. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Voilà, c'est pas exactement la même ambiance que le Japon féodal,
c'est
mais la bande-annonce
dans les feuilles.
Là, c'est plutôt les grosses voitures, les androïdes, etc. Exactement, c'est dans le style cyberpunk, comme le nom l'indique. Et la bande-annonce qu'on a pu voir, elles font penser à un mélange de Blade Runner, de Ghost in the Shell, avec, vous savez, des androïdes, des humains augmentés avec des prothèses bioniques, des bas-fonds pauvres et dangereux dans des villes avec des gratte-ciels immenses et un héros plutôt du genre taiseux à la Harrison Ford. Avec lui, on va pouvoir hacker les systèmes informatiques. Il y a aussi des combats dans les démos qu'on a vus qui sont à couper le souffle. C'est très dynamique. Et puis, à noter la présence au casting de Keanu Reeves, l'acteur de Matrix et John Wick, dans un rôle assez classe, faut le dire, avec lunettes de soleil et bras bioniques. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Voilà, on va aller brûler la ville avec Keanu Reeves et donc ce sera à partir du 16 avril sur toutes les plateformes.
Alors là, c'est plutôt pour les adultes, pour les ados. Vous avez quelque chose pour les plus jeunes, Clément ?
Oui, il y aura de quoi faire cette année aussi pour les enfants, à commencer par Animal Crossing New Horizons. C'est le cinquième opus de série de simulateurs de vie vraiment trop mimi, il faut le dire, hein, cette fois. On débarque sur une île déserte, vous incarnez un petit personnage qui arrive sur l'île. Vous êtes accueilli par les locaux, il va falloir trouver le bon coin pour planter sa tente, se préparer à manger, fabriquer des outils, des objets, interagir avec les villageois qui vont arriver après vous. Voilà, construire une communauté, c'est vraiment du Nintendo pur jus. Assez relaxant comme musique, hein. Ça fait du bien des jeux comme ça.
On a envie de se faire masser les pieds.
Exactement, on retrouve avec plaisir une ambiance hyper légère, très fun, avec des graphismes tout ronds, vraiment hyper mignons. Animal Crossing, c'est une des franchises phares de Nintendo qui revient assez régulièrement. C'est un jeu gentil, vraiment un peu bisounours, bon peut-être, mais ça fait du bien d'avoir justement ce genre de jeu reposant, sortie prévue le 20 mars. Et puis encore pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes qui n'ont pas envie de grandir, il y aura encore du Star Wars cette année. Alors Star Wars encore et toujours, mais cette fois, c'est en Lego. Lego Star Wars, la saga Skywalker doit sortir dans le courant de l'année. Et ça s'annonce tout simplement génial, parce qu'on va pouvoir rejouer l'intégralité des 9 films dans un seul jeu, mais en version Lego. Alors ça veut dire quoi ? des jeux en version Lego, bah, ça veut dire tout simplement que les graphismes sont des personnages Lego, donc tout est fait de briques. Et puis ça veut dire aussi beaucoup plus d'humour. Hein. Par exemple, la fameuse scène de combat, vous savez, dans l'Empire contre-attaque entre Dark Vador et Luke Skywalker, quand Vador coupe la main de Luke, et voilà, dans le jeu, il est absolument horrifié. Vador, il retire sa propre main en Lego pour la donner à Luke. Voilà, on est vraiment dans l'humour assez enfantin. Très sympa, et ça va sortir dans le courant de l'année. Ça s'annonce vraiment un très gros jeu, puisque les 9 films.
Quand même, ouais, et ce que j'adore dans le jeu Star Wars Lego, c'est que quand ils se construisent un vaisseau spatial, il est en Lego. Donc il y a les briques qui s'additionnent, j'adore. Votre chouchou, Clément, s'il faut en retenir qu'un seul.
Bah, vous savez, Philippe, moi, que j'aime bien les jeux indépendants, ces petits jeux soignés, ouais, conceptuels, avec des super.
Un peu à la con, ouais.
Exactement. Eh bien, moi, je trépigne.
Il n'ose pas le dire à l'antenne, mais il me le dit dans le couloir. Allez-y, Clément.
Je trépigne littéralement à l'idée de jouer à Ori and the Will of the Wisps. Pas simple à dire. C'est la suite d'Ori and the Blind Forest, sorti en 2015. C'est un des plus beaux jeux de ces dernières années. C'est un jeu de plateforme en 2D, un peu comme Rayman, qui se passe dans une forêt. On joue Ori, c'est un esprit des bois tout blanc qui a le pouvoir d'apporter la lumière dans les recoins les plus sombres. Voilà, donc le principe, c'est d'affronter des boss qui sont des insectes en général, ou des esprits, des créatures de la forêt. On peut se battre en leur projetant de la lumière. Voilà, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Ori and the Will of the Wisp, c'est aussi très touchant. Hein. Il a suffi que la bande-annonce sorte pour faire monter les larmes aux yeux des joueurs qui avaient fini le premier opus, pour vous dire à quel point c'est des jeux qui créent de l'émotion. Et celui-là, bah, on s'en reparle en mars.
Merci beaucoup, beaucoup Clément Lossard. Vous avez vu cet univers, c'est complètement dingue. Vous êtes joueur vous-même, vous êtes gamer, Laurent
Sexic ?
Non,
je regarde mes fils jouer. C'est vrai que mais je découvre une forme de poésie qui est incroyable. Ouais. La poésie des mangas lorsqu'elle est retranscrite en jeu vidéo, mais même un imaginaire, ça développe l'imaginaire malgré tout. Alors, ce n'est pas un livre, hein. Un livre développe sans doute plus l'imaginaire que le jeu vidéo.
Et alors, vous êtes un écrivain, vous êtes aussi un papa, et vous dites quoi à vos enfants? Vous dites, pose ton jeu vidéo, prends un livre. Comment ça se passe, la cohabitation?
Non, ils sont comme tous les gamins d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont lu énormément, mais jusqu'à leur premier portable. Et c'est ça qui est terrible, ouais. C'est que lorsque moi j'écris un roman jeunesse actuellement, les éditeurs vous disent que lorsque l'enfant a son premier portable, il laisse le livre, alors que les enfants sont des lecteurs compulsifs jusqu'à 12-13 ans.
Voilà. Et moi, les miens, quand ils étaient petits, ils mangeaient des légumes. Vous restez avec nous, Laurent Sexic.
Je suis pas prête de lui en acheter un, ma fille. La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Laurent Sexic. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média. Clément Le Saffre est toujours avec nous dans ce studio. Et notre invité, Laurent Sexic, écrivain. Il a préfacé le livre Stéphane Zweig, Pas de défaite pour l'esprit libre, écrit politique inédit de 1911 à 1942. Ça sort aux éditions Albin Michel le 9 janvier.
Je vais le dire d'un mot. Le titre qu'on donne, c'est le titre qui a été donné après coup. C'est pour réunir ces textes, mais ce n'est pas un titre qui a été voulu par Stéphane Zweig. Laurent Sexic.
D'une lettre en fait qu'il a écrite.
Ouais. Vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de Zweig. Vos livres sont traduits dans le monde entier. Vous êtes souvent présenté comme l'inventeur de l'exofiction. Qu'est-ce que c'est l'exofiction ?
L'exofiction, c'est simplement, c'est simplement le fait de se mettre à la place finalement d'un personnage ayant existé. Alors ça peut paraître surprenant, mais lorsque
j'allais vous demander quel rapport, quelle différence avec la fiction.
Alors ce n'est pas une fiction, parce que par exemple les derniers jours de Stefan Zweig ou le cas Edward Einstein sont des histoires vraies. Et alors c'est tout à fait troublant, parce que lorsqu'on écrit une exofiction, on invente une histoire vraie. La première fois que j'ai présenté à mon éditeur chez Flammarion mon projet d'écrire les derniers jours de Stefan Zweig, je lui ai dit écoute, je me suis mis dans la peau de Stefan Zweig. Ça paraît absolument aberrant, même lui a ouvert de grands yeux. En réalité, pour un écrivain, ce n'est pas plus compliqué que de se mettre dans la peau d'une femme, que de se mettre dans la peau d'un enfant, que de se mettre dans la peau d'un homme. Simplement, cela repose sur une histoire vraie, et simplement, il y a ce plaisir inouï de voir par les yeux d'un homme qu'on admire. Alors, voir par les yeux de Stefan Zweig, de Romain Gary ou d'Albert Einstein, cela prend 2 ans, ce sont des mois et des mois de travail, mais c'est une aventure extraordinaire, et l'écriture d'ailleurs pour moi est l'aventure du 21e siècle.
Voir par les yeux de Stefan Zweig, vous dites voir par les yeux, il y a une photo de Stefan Zweig sur la couverture du livre, en dehors de la moustache. Laurent Sexic, c'est hallucinant à quel point vous ressemblez, on vous l'a déjà dit ou pas? Alors, regardez ces deux photos que j'ai mises côte à côte. Laurent Sexic et Stéphane Zweig, c'est exactement la même expression. On vous l'a déjà dit.
Écoutez, on peut voir sur
Europe 1.fr. On me l'a déjà dit. J'ai du mal à, évidemment à y croire, mais alors il y a des résonances. De toute façon, quand on ne choisit
c'est jamais,
pas.
Ouais, je vais vous débarrasser de ce. C'est jamais agréable de savoir qu'on ressemble à quelqu'un. Moi, j'ai horreur qu'on me dise que je ressemble à Brad Pitt.
Non, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais il y a des résonances. De toute façon, on ne choisit pas un auteur. On ne choisit pas de raconter la vie d'un auteur par hasard. C'est parce qu'on l'admire, c'est parce qu'on l'aime, et c'est parce qu'on aime ses écrits.
Également, plus sérieusement, vous faites beaucoup penser, votre œuvre fait penser à celle de Zweig, parce que comme vous, vous écrivez des romans et des biographies, Chaplin, Einstein, Edward Einstein, le fils d'Einstein, Romain Gary, votre prochain livre, vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Sur Kafka. Donc je voyage à Prague, dans ma tête.
Et vous faites quoi ? Vous écrivez sur Kafka ou vous êtes Kafka ?
Alors je suis... évidemment, ça paraît complètement... Mais je suis... Je me mets dans la peau de la mère de Kafka, dont on parle très peu, on parle toujours du père, dans la peau du dernier amour de Kafka, et dans la peau du médecin qui a soigné Kafka, qui a assisté à ses derniers instants et qui l'accompagnait depuis. Donc du jeune médecin qui s'appelait Robert Klotz.
Vous êtes venu nous voir il y a 2 mois, au moment où de très grandes personnalités de l'édition avaient signé une tribune pour réclamer davantage d'émissions littéraires à la télé. C'était le 21 novembre. Est-ce que depuis, les choses ont évolué ou est-ce que rien n'a bougé ?
Alors je ne sais pas, je ne suis pas dans les arcanes de la télévision. On a besoin d'émissions littéraires, on a besoin de parler du livre, on a sans doute besoin d'entendre des voix et d'entendre des écrivains à toute heure du jour sur le service public.
Juste un mot, je voulais savoir si c'était vrai ou pas vrai. Vous avez été politisé très très tôt, Laurent Sexic. Est-il vrai que vous avez fondé tout seul la branche jeunesse du Parti Socialiste ?
C'est une autre histoire.
C'est authentique ?
Oui, c'était à l'époque. Alors Nice n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. J'avais une conscience politique qui m'avait été donnée par mon père, qui était très forte et qui est demeurée, mais qui s'est transférée sur la littérature.
Puisqu'on parle de l'aide de Zweig, vous avez vraiment écrit à Mitterrand ?
Et surtout, j'ai reçu une réponse à l'âge de 15 ans de François Mitterrand, qui m'appelait mon cher camarade et que je garde encadré. C'était assez étonnant. Oui, c'était surtout l'âge. Je me demande comment, à 15 ans, je pouvais faire ça. Il y avait tant de choses plus merveilleuses à faire qu'à écrire à François Mitterrand.
Et à l'époque, François Mitterrand était dans quelle position ? Il était déjà à l'Élysée ?
En 77.
D'accord.
C'était
l'union de la gauche.
Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et c'est le romantisme. De cette aventure qui m'intéressait déjà intuitivement. Ensuite, c'était Le Clésio a remplacé Mitterrand et Zweig dans mon panthéon.
Ouais, et Le Clésio ne jouait pas aux jeux vidéo. Merci Clément Le Sapre, merci Angèle Châtelier, merci beaucoup Laurent Sexic d'avoir été avec nous et merci évidemment Céline Dacosta.
Nous, merci à vous,
on se retrouve lundi dans Culture Média, ça sera à 9h. Nous serons avec Jean-Christophe Grangier qui est un romancier, mais là il va venir pour l'adaptation de son roman Les Rivières Pourpres. Il y a une saison qui recommence à la télévision et puis la comédienne Camille Chamou pour un film, je cite de mémoire, qui s'appelle Sol. À demain. Merci encore Laurent Sexic. Bon week-end sur Europe 1.
À lundi, c'était Philippe Vandel sur Europe 1. Dans un instant, Anne Roumanoff, toute sa bande et leurs invités pour votre émission Ça fait du bien. Aujourd'hui, ils accueillent Elena Noguera et Bruno Solo sur Europe 1.